Radio Galère, à l'écoute de l'émission Une heure en Palestine, qui aujourd'hui est animée par le collectif Marseille-Gaza-Palestine. Et pour commencer immédiatement, un petit hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques 3 semaines. Jacques est parti au pays des ancêtres. Un ami, un camarade nous a quittés il y a quelques 3 semaines. Son engagement politique, ses luttes contre les fascistes, contre toutes les discriminations furent nombreuses. Et il en paya le prix, comme le rappelle Eva, l'une de ses filles. En 1973, le développement d'une terrible campagne raciste le place au centre d'une véritable tentative de liquidation. Condamné à mort par les groupes néo-nazis, menacé par le quotidien d'extrême droite Le Méridional, il est harcelé par la police et doit quitter Marseille par sécurité. Journaliste, pionnier des radios libres ici en France, dont notre radio, Radio Galère, dont il fut l'un des créateurs, et ailleurs, notamment en Afrique, qu'il affectionnait particulièrement. Féministe, écologiste, défenseur de la cause palestinienne et tellement plus. Il était du côté des opprimés, des déracinés, des apatrides. Et ses combats ont été si nombreux qu'il est impossible de tous les citer ici. Animé par un idéal de justice, d'égalité, de fraternité entre les peuples, il voulait un monde meilleur, un monde empreint de solidarité, plutôt que d'une somme d'individualité, et il n'a jamais cessé de croire que c'était possible. Il n'a jamais baissé les bras. Parmi ses derniers combats, le jumelage entre Marseille et Gaza. Nous continuons, Jacques, nous continuons, on ne lâchera pas. Et ce jumelage, on l'aura. Pour eux, pour nous, et aussi pour toi. Merci, Jacques Sansin. Et sans transition, après ce petit morceau musical d'un groupe palestinien, on arrive aux actions à venir. Le 28 avril, donc dans un peu plus d'une semaine, le 28 avril à 19h au Hangar, au 106 boulevard Françoise du Parc, 106 bis boulevard Françoise du Parc, à 19h donc. Pour y aller, vous prenez le métro Chartreux, vous marchez un tout petit peu, ou bien le bus 72 et le bus numéro 6 qui s'arrêtent devant le Hangar. Projection du film « Une mémoire contre l'oubli » de la réalisatrice Marie Géniès. Ce film vous permettra de retrouver 3 Palestiniens, 2 Palestiniens et 1 Palestinienne plus exactement, un Samaritain juif, un chrétien et une musulmane qui parleront en tant que Palestiniens de ce qu'ils vivent sous occupation israélienne. Et ce film sera suivi d'un échange avec la réalisatrice et en présence de Pierre Stamboul de l'Union juive française pour la paix. Alors venez, soyez nombreux à l'heure, tout simplement parce qu'il y a une jauge de 79 places et que nous ne dépasserons pas ce nombre. Donc, nous demanderons aussi une participation aux frais de 4 euros minimum, cela pour aider la réalisatrice qui a des projets d'autres films. Voilà, c'est une petite contribution à un projet plus large. Le 1er mai, nous vous invitons à nous retrouver dans la manifestation qui aura lieu sans doute à partir du Vieux-Port, sans doute autour de 10 heures. Ça sera confirmé par les organisations syndicales qui l'organisent. Et tous ensemble avec des drapeaux palestiniens, avec des t-shirts, avec de quoi faire du bruit. En ce moment, ce sont les casseroles, les vuvuzelas, les sifflets, tout ce que vous voulez. Mais soyons nombreux pour faire du bruit dans la manifestation et pour porter la Palestine au cœur de cette manifestation. Le 13 mai, c'est un samedi, et nous sommes aussi à l'approche du 75e anniversaire de la proclamation de l'État israélien et du nettoyage ethnique de la Palestine, qui avait commencé un petit peu avant et qui a duré intensément jusqu'en 1952 et qui se poursuit depuis lors à travers les destructions de maisons, les populations déplacées. Enfin, le nettoyage ethnique n'est pas terminé, la Nakba continue. Et le 13 mai, c'est un samedi, on donnera plus de précisions au cours des prochaines réunions, au cours des prochaines émissions, mais on est en train de préparer une action à Marseille pour dénoncer, pour dire 75 ans de Nakba, ça suffit. Et le soir, ce sont nos amis à Martigues, le collectif de soutien à la Palestine pour Martigues Ouest et Tendebert, qui à 19h reçoit pour un stand-up Michel Benisri, dans un stand-up qu'il appelle « Moi, français, juif, arabe, comment j'ai démissionné du sionisme ?» Ça se passera au Renoir, ancien cinéma Le Renoir, qui aujourd'hui fait office de théâtre, de lieu de réunion. C'est au quartier Paradis, Saint-Roch, à Martigues. Et le 17 mai, toujours à Martigues, cette fois, c'est une conférence internationale, oui, puisque viendront de Palestine occupée les Neturei Karta, des membres du groupe des Neturei Karta, qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, des membres de Decolonizer, une organisation initialement israélienne, les membres du réseau International Jewish Anti-Zionist Network, un réseau juif anti-sioniste, et d'autres personnes qui seront soit en présentiel, soit à distance. En particulier, nos amis attendent des Américains juifs de Jewish Voice for Peace, mais ça, ce sera à confirmer par eux. Donc, plusieurs événements fin avril et pendant tout le mois de mai. Voilà, on fait une petite pause musicale avec Dominique Grange, Abattons le mur.
Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière.
Aujourd'hui, 19 avril, petit rappel, il y a deux jours, le 17 avril, eh bien, c'était la journée internationale de solidarité avec les prisonniers et prisonnières palestiniens, prisonnières politiques palestiniens. Et à cette occasion, le bureau national de l'association France-Palestine Solidarité a sorti un communiqué. Nous n'oublions pas les 4900 hommes, femmes, mineurs détenus dans les prisons israéliennes, dont 160 sont des enfants. Plus de 1000 sont sous le régime de la détention administrative. Plus de 600 prisonniers sont malades et nombre d'entre eux sont victimes de négligences médicales délibérées. En 2022, il y a eu de la part des forces d'occupation israéliennes plus de 7000 arrestations, dont 882 mineurs et 2049 ordres de détention administrative ont été délivrés ou prolongés. Nous dénonçons la politique que le gouvernement israélien réserve au peuple palestinien, massivement arrêté et emprisonné. Arrestations, violences, humiliations, tortures lors des interrogatoires, détention arbitraire, peines disproportionnées, conditions de détention indignes, isolement prononcé. Prolongée, maltraitance, absence de soins médicaux appropriés, auxquels s'ajoutent des punitions collectives, démolition de maisons de la famille du prisonnier, non-remise du corps après son décès en prison, parfois pendant des mois ou des années. Ces prisonniers et prisonnières ne disposent que d'un moyen pour se battre contre la détention arbitraire, pour défendre leur dignité, pour recevoir un traitement humain, c'est la grève de la faim. Ainsi, Kader Adnan, 44 ans, de la ville d'Araba au sud de Jenin, est en grève de la faim depuis 71 jours, refusant sa détention administrative après son arrestation le 5 février. C'est au moins la troisième grève de la faim de Kader Adnan. Et à chaque fois, il est libéré au moment où sa santé est dans un tel état que la mort est proche. Et depuis trois grèves de la faim, la quatrième aujourd'hui, eh bien, on peut dire que l'État israélien est en train de condamner Kader Adnan à une mort lente, affaiblie qu'il est par toutes ces grèves de la faim successives. Aujourd'hui, il ne reçoit pas les soins nécessaires. L'administration pénitentiaire refuse de le transférer à l'hôpital et sa famille n'est pas autorisée à lui rendre visite sous prétexte qu'il est puni. Le Bureau national de la FPS demande la libération de tous et toutes les prisonniers et prisonnières politiques palestiniens et apporte tout son soutien à leur lutte pour obtenir des conditions de détention décentes et pour le respect de leurs droits. En ce 17 avril, donc, journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens, la FPS dénonce la violation permanente institutionnalisée du droit international par l'État israélien, dénonce le régime d'apartheid exercé par l'État d'Israël à l'encontre des Palestiniens. La FPS demande que la France prenne toutes les mesures qui s'imposent pour faire pression sur l'État d'Israël afin qu'il cesse cette politique illégale et indigne de répression à l'égard du peuple palestinien. Elle doit exiger, donc la France doit exiger la libération de tous les prisonniers et toutes les prisonnières politiques palestiniennes. Avec une petite pause musicale maintenant avec Ahmed Kabour, Unadikoum. Nous allons maintenant à Nazareth avec un communiqué du syndicat des travailleurs arabes, le Arab Worker Union. Ce communiqué vient à la suite de manifestations contre les attaques contre les Palestiniens de l'armée israélienne, des colons, contre les Palestiniens de Jérusalem et en particulier contre la mosquée Al-Aqsa. Voilà ce que nous dit ce communiqué donc de l'Arab Workers Union. Les autorités israéliennes intensifient leur répression contre les Palestiniens et Palestiniennes de 1948 et lancent une campagne d'arrestation massive parmi les participants à ces manifestations. Le syndicat des travailleurs arabes de Nazareth appelle au recrutement d'avocats et à une campagne de financement pour soutenir les détenus. Lors de sa réunion d'urgence tenue vendredi 7 à Nazareth, le syndicat a appelé le peuple palestinien et toutes les institutions syndicales du monde entier à prendre position en solidarité avec les Palestiniens et Palestiniennes de 1948, c'est-à-dire aujourd'hui le territoire de l'État d'Israël, qui sont soumis ces derniers jours à la plus grande campagne des dernières années en matière d'abus, en termes d'abus, d'oppression et d'arrestation par les autorités israéliennes, avec la participation de villes et villages des territoires de 1948 aux grandes manifestations et aux affrontements face à la police israélienne, ceci à la suite des attaques répétées contre la mosquée Al-Aqsa et contre les Palestiniens de Jérusalem. De plus, le gouvernement israélien a appelé hier à une mobilisation générale dans les rangs de la police israélienne et au recrutement de 2500 policiers supplémentaires pour s'opposer aux manifestations dans les villages et villes palestiniennes des territoires de 1948. Au cours des quatre derniers jours, des autorités israéliennes ont lancé une campagne massive d'arrestation de jeunes et de travailleurs qui se rendaient sur leur lieu de travail, les accusant de participer à des manifestations et actes de violence, avec le blocage des routes principales d'Israël. Le syndicat des travailleurs arabes, dont les membres ont été arrêtés dans les villes de Haïfa et de Nazareth, a appelé à une campagne d'urgence pour recruter davantage d'avocats afin de défendre les détenus, d'autant que le syndicat n'a que 2 avocats et qu'il ne peut défendre des douzaines de détenus arrêtés récemment. Le syndicat a également appelé à une campagne de levée de fonds pour couvrir les frais d'avocats et les lourdes amendes infligées aux détenus. Liberté pour tous les détenus, pour contribuer et manifester votre solidarité avec ce syndicat et avec les travailleurs palestiniens de 1948, rendez-vous sur le site de Arab Workers Union 48, Arab Workers Union 48, gmail.com. Un nouveau logiciel espion israélien cible des journalistes et des politiques. Une fois placé sur le téléphone ou l'ordinateur, nous dit le Figaro, en reprenant une dépêche de l'AFP, le logiciel espion de Quadrim, c'est un nouveau, peut enregistrer le son d'un appel téléphonique, prendre des photos et effectuer des recherches dans les fichiers de l'appareil. Selon le laboratoire de recherche canadien Citizen Lab, ce logiciel, sur le même modèle que Pegasus, qui avait fait scandale en 2021, aurait ciblé au moins 5 personnes sur 4 continents. On peut imaginer qu'il s'agit de tests. Un nouveau logiciel, donc, il ressemble au programme Pegasus. Il a été utilisé pour cibler des journalistes et des personnalités politiques dans plusieurs pays, selon donc Citizen Lab. Le logiciel espion a été créé par l'entreprise Quadrim, elle-même fondée par un ancien responsable militaire israélien et ancien membre de la société NSO Group, le créateur de Pegasus, affirme l'organisme spécialisé des questions de cybersécurité, donc cet organisme canadien. D'après celui-ci, au moins 5 personnes ont été ciblées par le logiciel en Amérique du Nord, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est, en Europe et au Moyen-Orient. Parmi les victimes figurent des journalistes, des personnalités de l'opposition politique et un membre d'une ONG, a indiqué l'organisation, qui précisant qu'elle ne les identifierait pas, elle ne donnerait pas leur nom pour le moment. Le sujet des logiciels espions privés a surgi sur le devant de la scène internationale à la suite des révélations en cascade autour du logiciel Pegasus exporté par la société israélienne NSO. En juillet 2021, une enquête coordonnée de plusieurs médias avait révélé une liste de plus de 50 000 noms d'individus susceptibles d'avoir été surveillés via Pegasus. Ces allégations ont déclenché des scandales et parfois des procédures judiciaires dans plusieurs pays, dont la création au Parlement européen d'une commission d'enquête spéciale. Citizen Lab a expliqué qu'une fois placé sur le téléphone ou l'ordinateur, le logiciel espion Quadrims peut enregistrer le son d'un appel téléphonique, prendre des photos, effectuer des recherches dans les fichiers de l'appareil, le tout à l'insu de l'utilisateur. Ce logiciel permet également d'accéder aux données stockées sur le cloud et comprendre par ailleurs une fonction d'autodestruction pour masquer sa présence une fois qu'il n'est plus utilisé. Citizen Lab a identifié des serveurs dans 10 pays ayant reçu des données provenant des appareils des victimes, dont Israël, Singapour, le Mexique, les Émirats arabes unis, la Bulgarie. Quadrim a vendu ce logiciel espion à des gouvernements, notamment à Singapour, à l'Arabie saoudite, le Mexique, le Ghana ou encore l'Indonésie, le Maroc, a précisé Citizen Lab. Voilà, de grandes démocraties qui vont espionner leurs journalistes, leurs opposants et les ONG. Alors, dans le même temps, eh bien, il y a une charte qui a été signée, un engagement signé le 30 mars dernier à partir de la Maison-Blanche, qui regroupe un certain nombre de pays, la France, l'Australie, le Canada, le Costa Rica, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, la Suède et le Royaume-Uni, qui s'engagent à lutter contre la prolifération et les mauvais usages des logiciels espions commerciaux. Si c'est s'agit des politiques, on va laisser tourner peut-être, parce que là, visiblement, dans ce document du Monde, en date du 30 mars, eh bien, on ne parle que de logiciels espions commerciaux. Et on passe sans transition à l'économie, à une dépêche qui nous parle de l'agence Moody's, cette agence internationale de notation, qui a abaissé la perspective de la note de crédit de l'apartheid israélien. Cette note était de positive et elle va passer à stable en raison d'une détérioration de la gouvernance, d'un affaiblissement de la force institutionnelle et de la prévisibilité des politiques menées à l'intérieur de ce pays. Vous le savez, il y a des manifestations depuis plusieurs semaines. Alors, tant qu'il s'agissait uniquement de réprimer les Palestiniens, eh bien, Moody's ne s'en inquiétait pas vraiment. Mais maintenant que la société israélienne en interne est ébranlée, eh bien, on dégrade la note. Et donc, Moody's a averti que la cote de crédit d'Israël pourrait être soumise donc à une pression à la baisse si la crise se prolonge, ce qui aggravera la tendance actuelle à la disparition des capitaux dans le secteur de la haute technologie. Au départ, des entreprises israéliennes qui vont se réfugier à l'étranger pour fuir cette crise. Les investissements en Israël ont presque disparu ces derniers mois en raison du manque d'appétit des investisseurs étrangers pour les investissements, selon des experts israéliens de haut niveau. La fuite des capitaux d'Israël, surtout dans le secteur de la haute technologie, a fortement augmenté. Riskyfield, par exemple, sort 500 millions de dollars et investit dans un nouveau centre de recherche et développement au Portugal, craignant une récession économique significative et prolongée en Israël. Vous voyez, c'est la partie désinvestissement préconisée par le BDS qui se met en place. L'économiste en chef d'Israël, Shira Greenberg, a estimé qu'une réduction de la cote de crédit, comme l'a averti Moody's, éliminerait la moitié de la croissance du produit intérieur brut israélien au cours des 5 prochaines années. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les investisseurs du marché boursier israélien ont perdu plus de 25 milliards de dollars. L'ex-président du Conseil économique israélien, le professeur Eugène Kandel, a prédit 2 scénarios de l'économie israélienne. Alors tenez-vous bien, une crise cardiaque ou un cancer. Les récentes révélations sur l'engagement idéologique en faveur du sionisme et d'Israël, qui a motivé d'importants investissements dans les entreprises de haute technologie, bancaires et même militaires du pays, confirment l'analyse des défenseurs des droits de l'homme. Responsabilité sociale, droits de l'homme et idéologie mis à part, de nombreux investisseurs vont enfin commencer à voir l'écriture sur le mur. Le régime israélien d'apartheid devient de plus en plus une « shutdown nation ». Il est temps de désinvestir. Et par exemple, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais au milieu du coup d'État judiciaire, c'est l'extrait d'un article de Haaretz. Au milieu d'un coup d'État judiciaire, eh bien, Tech Unicorn retire 500 millions de dollars d'Israël et propose une relocalisation à Lisbonne. C'est le PDG de Riskyfield, une société israélienne de prévention de la fraude, qui a déclaré dans un email du personnel que la refonte judiciaire pourrait conduire à un ralentissement économique et mettre Israël sur la voie de l'autoritarisme. Et oui, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans l'État d'Israël. Mais notons quand même que tant qu'il s'agissait de réprimer, de massacrer, de commettre des crimes de guerre, eh bien, le milieu de la bourse n'était pas aussi frileux. Donc, on va continuer par une toute petite pause musicale et nous allons appeler Pierre Stamboul pour échanger avec lui sur différents thèmes, en particulier justement sur ce désinvestissement à la suite d'un article publié sur le site de l'UJFP, qui parle de ce qui se passe et de la dichotomie entre ce qui est dit pour l'Ukraine et fait pour l'Ukraine et ce qui est dit et fait pour la Palestine. Et puis, sur différents sujets, ce qui se passe dans l'État d'Israël avec la montée du fascisme, en particulier autour de Ben-Gvir, ce ministre fasciste omnipuissant dans le gouvernement Netanyahou. Donc, une petite pause musicale et on appelle pendant ce temps Pierre Stamboul qui attend notre appel et avec lequel nous débattrons pendant une bonne vingtaine de minutes. Voilà, toujours à l'écoute de Radio Galère sur l'émission Une heure en Palestine sur 88.4. Et nous accueillons Pierre Stamboul qui est en ligne.
Bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour. Alors écoute, moi je te propose de commencer alors d'abord te présenter si jamais il y avait encore quelques auditeurs qui ne te connaissent pas. Tu es donc Pierre Stamboul et tu es le porte-parole, l'un des porte-paroles de l'Union juive française pour la paix.
Tout à fait. Association qui existe depuis maintenant 29 ans et qui est la composante juive du mouvement de solidarité avec la Palestine, association juive antisioniste qui fait partie de BDS, Boycott des investissements sanctions, contre l'État d'Israël jusqu'à ce qu'il respecte le droit international.
Voilà, donc il y a cet article qui a été, que j'ai vu sur le site de l'Union juive française pour la paix, et qui est intitulé « Le triomphe enfin du BDS ».
Oui, c'est un clin d'œil.
Oui. Alors, cette différence entre ce qui s'est passé pour l'Ukraine, ce qui s'est passé pour la Palestine, toi, tu vois ça comment ?
Ben il est clair qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises au niveau international ne concernent pas ce que nous réclamons, c'est-à-dire le respect du droit international, mais c'est le camp occidental qui essaie de dicter sa loi. Donc on est quand même assez ahuri que vis-à-vis de la Palestine, qui est entièrement occupée depuis 1967, contre laquelle a eu lieu un crime fondateur qui était un nettoyage ethnique prémédité en 1948-49, contre la Palestine, on a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, une occupation extrêmement féroce et une impunité totale de l'État qui fait ça. Et vis-à-vis de l'Ukraine, brusquement, le monde occidental découvre que des sanctions sont possibles, déclare contre un membre du Conseil de sécurité, ce qui est juste parce qu'il commet des crimes de guerre, déclare un boycott, déclare un isolement total, y compris des sportifs. Nous, on réclame dans le BDS le boycott sportif aussi, que tous les sportifs qui représentent l'État d'Israël soient boycottés en tant que représentants d'un État d'apartheid. Brusquement, ils s'aperçoivent que des sanctions économiques, c'est tout à fait possible, des sanctions politiques, c'est tout à fait possible, et tout ça s'est fait contre la Russie de Poutine, qui est un État détestable à tout point de vue, mais c'est jamais fait contre Israël. Donc il y a un deux poids, deux mesures, puis qui va plus loin. Je veux dire qu'on a 8 millions d'Ukrainiens qui se sont réfugiés en Europe pour sauver leur vie, pour éviter les bombardements, pour éviter une situation absolument tragique. Et on a des millions de migrants qui frappent à la porte de l'Europe et qu'on laisse se noyer. On en est quand même à 100 000 noyades en Méditerranée depuis 2014. Donc on a véritablement un deux poids, deux mesures. C'est ça que Sonia Dayan Herzbrun et Ivar Ekland ont analysé. Voilà, on a en même temps une justice internationale qui n'a jamais pris de mesure contre Israël. On attend depuis des années que la CPI, la Cour pénale internationale, inculpe les dirigeants israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au regard de tout ce qu'ils font sans arrêt, notamment contre Gaza. Et là, on a la Cour de justice internationale qui inculpe Poutine. C'est très bien d'inculper Poutine, c'est très bien que la justice internationale ait jugé des criminels de guerre comme Mladic, Karadzic ou Milosevic. C'est toujours les ennemis de l'Occident qui sont jugés et jamais ses amis. Donc il y a véritablement quelque chose qui ne va pas du tout. Nous, on réclame que le droit international soit unique et soit suivi partout, pas seulement contre la Russie, mais contre aussi les alliés de l'Occident.
Oui, et ce qui est aussi une attitude à double tranchant, c'est-à-dire que ce silence par rapport aux crimes israéliens permet de faire douter aussi de la sincérité lorsque on s'attaque à Poutine et aux crimes de Poutine et de la Russie. On peut pas, ce deux poids deux mesures déconsidère finalement les sanctions prises contre l'invasion de l'Ukraine et l'attitude de Poutine, la belligérance de Poutine et l'occupation d'une partie de l'Ukraine.
Le deux poids, deux mesures. Ça déconsidère complètement le droit international, c'est-à-dire que, je sais pas, les États-Unis font un blocus depuis Cuba, depuis 55 ans, qui n'a jamais été sanctionné par la communauté internationale, alors que c'est un véritable crime qui appauvrit le peuple cubain de façon évidente. Donc c'est finalement l'Occident qui déclare on va prendre des sanctions contre l'Iran, on va prendre des sanctions contre Cuba, on va prendre des sanctions contre la Russie. Et puis, à aucun moment, le droit international ne fait ce que les Palestiniens attendent, c'est-à-dire qu'il s'applique à eux. Et donc, il s'applique à eux en les défendant en sanctionnant ceux qui aujourd'hui sont passés à une étape supplémentaire quand on voit un petit peu la situation de la Palestine. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement Gaza qui est enfermé et qui est régulièrement bombardé, mais on a maintenant une violence des colons et de l'armée alliée dans tous les endroits de la Cisjordanie et de Jérusalem, et contre lequel il n'y a aucune sanction. C'est même pire. Quand il y a eu une toute petite riposte avec des roquettes parties du sud Liban ou de Gaza suite à l'invasion des troupes israéliennes sur l'esplanade des mosquées, on a immédiatement une réponse internationale de l'ONU et de l'Occident pour dire que ça, c'est pas tolérable, et on n'a jamais la moindre condamnation des signes israéliens. C'est-à-dire que cet Occident-là, y compris, interdit aux Palestiniens de riposter aux exactions quotidiennes qu'ils subissent.
Absolument,
c'est le monde à l'envers.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que l'État, l'armée israélienne n'est jamais belligérante de son plein gré, de son propre chef. Elle agit toujours, selon les commentateurs et selon les instances internationales, en réponse à des attaques, même si la principale cause de ces attaques, c'est la violation du droit international par les autorités israéliennes, par le gouvernement israélien, avec l'occupation, avec la colonisation, tout ça qui sont des crimes de guerre aux yeux du droit international, avec le non-respect de la Cour internationale de la décision qui a bientôt 20 ans, depuis 2004, de la Cour internationale de justice qui demande la destruction du mur et qui impose aux États signataires qui en sont partis de faire respecter cette décision et d'imposer des sanctions. Alors, c'est pas coercitif, on peut dire, mais ça demande aux États de faire respecter cette décision, et les États occidentaux violent cette décision de la Cour internationale de justice. C'est quand même... Alors justement, on fait la transition, tu as fait toi-même la transition justement avec ce qui se passe en Cisjordanie et à Jérusalem actuellement, avec ces colons fous furieux fascistes, et en particulier Itamar Ben-Gvir, mais pas uniquement lui, mais Itamar Ben-Gvir, donc ce kahaniste, ce fasciste. Tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe justement au sein de la société israélienne avec cette extrême droite de plus en plus virulente?
D'abord, il faut voir que l'extrême droite qui est appelée dans les manifestations à Tel Aviv des fascistes juifs, elle n'est pas sortie de nulle part. Le père de Netanyahou, Benson Netanyahou, était le secrétaire de Vladimir Jabotinsky, dont les milices, le Betar, faisait des entraînements armés dans l'Italie fasciste dans les années 30. C'est-à-dire que cette branche d'extrême droite qui a poussé un nationalisme jusqu'au boutiste en disant que toute la Palestine est à elle et qu'évidemment le peuple palestinien n'existe pas et donc que ce sont des intrus et qu'on a le droit de les tuer, de les enfermer ou de les expulser, c'est un courant du sionisme qui a un siècle d'âge. Mais le courant qui lui était opposé, qui a été longtemps majoritaire, n'a pas fait mieux parce que Golda Meir, travailliste elle-même, niait aussi l'existence du peuple palestinien. Seulement, il est sûr que leur arrivée au pouvoir, c'est, je reprendrai l'expression très bonne de Sylvain Sipel, qui était venu à Marseille présenter son livre, et son livre « Israël contre les Juifs », il emploie une expression qui est utilisée aujourd'hui en Israël et qui est urinée du haut du plongeoir. C'est-à-dire qu'avant, les Israéliens, quand ils faisaient leurs exactions, ils urinaient dans la piscine. Ils ne se faisaient pas trop voir, ils essayaient de masquer ça en disant « Mais non, vous avez mal compris, on est pour le droit et tout ». Maintenant, avec les fascistes qui sont au pouvoir, Ben-Gvir et Smotrich, on affirme. C'est-à-dire que tuer des Palestiniens, les expulser, se faire photographier un pistolet à la main comme Ben-Gvir l'a fait, c'est un argument de vente et c'est un argument électoral. Ils estiment aujourd'hui que l'évolution sociologique de la société israélienne leur donne une majorité à vie et qu'ils ont tout à fait les moyens d'imposer ce fascisme-là, qui n'est même plus rampant maintenant, c'est-à-dire que le projet politique qui est affirmé, c'est expulser les Palestiniens, c'est détruire l'esplanade des mosquées, c'est reconstruire le temple. On est sur un projet qui est à la fois un millénarisme religieux, puisque ce courant-là de la religion juive s'est imposé comme étant majoritaire en Israël, ce qui n'était pas le cas il y a encore 50 ans, et un courant ultranationaliste qui signifie que ce territoire-là, où vivent 7 millions de juifs israéliens et 7 millions de palestiniens, est uniquement un territoire juif, que les palestiniens sont des intrus et qu'on va les mater, les expulser ou les tuer.
Alors justement,
donc,
Pierre...
Il y a ce danger-là. Oui, vas-y.
Tout à fait, oui. Tout à l'heure, j'ai lu un communiqué de l'Arab Workers Union, le syndicat des travailleurs arabes de Nazareth, et pour cette frange, ces colons de plus en plus fascistes, les Palestiniens d'Israël, c'est bien une cinquième colonne qu'il faut annihiler, voire expulser.
Alors, sur les Palestiniens d'Israël, que je préfère appeler, comme ils s'appellent eux-mêmes, les Palestiniens de 48, d'abord comprendre qu'historiquement, ce sont des miraculés. C'est-à-dire qu'on sait que le projet de la guerre de 48-49, c'était de les expulser tous. De quelque part, ces Palestiniens de 48, qui représentent un peu plus maintenant de 20% de la population israélienne, le but c'était de les virer tous, qu'ils ont vécu sous couvre-feu jusqu'en 1966, qu'ils ont été sujets à toute une série de vexations, de spoliations. Avant la guerre de 48, les sionistes ne possèdent que 8% de la terre de la Palestine, de ce qui va devenir l'État d'Israël. Et après l'expulsion préméditée de la majorité des Palestiniens, ils en ont 92%, et le peu qui reste un petit peu aux Palestiniens va être un enjeu. La Journée de la Terre célèbre un massacre commis contre les Palestiniens qui se révoltent contre le vol de leurs terres en 1976. Et on sait maintenant que Kfar Qassem, en 1956, Magav, la police des frontières qui ouvre le feu sur des paysans de Galilée, c'était prémédité par Ben Gurion pour provoquer une deuxième Nakba. Donc on sait depuis très très longtemps que...
Par Sharon peut-être ?
Pardon ?
Par Sharon ?
Oui, il a... Non, Magav, la police des frontières, il n'y était pas. Il était à Kibia, mais il faisait pas partie de Magav. Il n'était pas à Kfar Qassem. Mais le projet, en tout cas, de les virer tous, il est extrêmement ancien. Et évidemment, on a eu un moment des petits pogroms dans les rares villes dites mixtes, comme Saint-Jean-d'Acre ou Ramleh, il y a 2 ans maintenant, et on sait qu'il y a beaucoup de politiciens israéliens qui rêvent de les virer à Victor Lieberman ou d'autres. Donc on sait qu'ils sont menacés. C'est très positif que le rapport d'Amnesty International a dit ce que d'autres associations des droits de l'homme avaient dit, c'est-à-dire que l'apartheid ne s'applique pas seulement aux territoires occupés, il s'applique aussi aux Palestiniens d'Israël. Il faut savoir que sur la carte d'identité d'un Palestinien d'Israël, il est marqué citoyenneté israélienne, nationalité, c'est jamais dit palestinien, c'est arabe, druze, bédouin ou tcherkesse. Il fallait l'inventer. Mais donc, il n'y a même pas la reconnaissance de leur identité israélienne en ce qui concerne les Palestiniennes. En ce qui concerne les bédouins palestiniens du nord du désert, du Nakab ou du Negev, il y a 120 000 d'entre eux qui vivent dans des villages non reconnus, c'est-à-dire des villages sans route, sans eau, sans école, sans électricité, que le village d'Al-Araqib a subi plus de 200 destructions parce que coûte que coûte, l'État israélien avec le KKL, le Fonds national juif, veut judaïser le nord du Negev pour y installer de nouveaux colons. Donc voilà, il y a une situation de violation, y compris contre eux. Et il est sûr que dans des projets d'expulser les Palestiniens, ça ne concerne pas que les territoires de Cisjordanie ou de Jérusalem, ça concerne aussi les Palestiniens de 48.
Ok, merci beaucoup, mais je voudrais, avant de terminer, revenir sur 2 points. Peut-être sur ce qui se passe dans l'armée. L'armée qui, jusqu'à présent, a exécuté sans sourciller les ordres de réprimer, de bombarder, de tuer, y compris des enfants, et qui aujourd'hui s'inquiète pour la démocratie.
Ça concerne de façon générale le sens qu'il faut donner aux vagues de manifestations contre Netanyahou et sa volonté de supprimer ou de court-circuiter la Cour suprême pour ne pas aller en prison. La Cour suprême, Elle a légalisé la torture et elle a autorisé la destruction du village de Massafar Yatta au sud d'Hébron et l'expulsion de 1200 villageois. Donc il y a des masses de manifestants en Israël, dont les dirigeants de l'armée et des services secrets, certains dirigeants de l'armée et des services secrets, qui descendent dans la rue, drapeau israélien avec l'étoile de David, celle avec laquelle nos grands-parents sont partis dans la chambre à gaz, et qui est aujourd'hui le drapeau d'un état d'apartheid. Ils descendent dans la rue pour dire on défend la démocratie, Ben-Gvir, Netanyahou sont des voyous. Bon. Tout le problème, c'est que tant que ça se contente de défendre une démocratie pour les juifs, c'est-à-dire la moitié de la population, et que ça ne concerne pas les Palestiniens, c'est sans avenir. C'est-à-dire que lutter contre l'apartheid et lutter pour l'égalité des droits, ça doit être pour tout le monde et ça ne peut pas être pour la moitié de la population. Donc, encore un effort, camarade qui manifestait, mais il y a eu un précédent en Israël, c'était le mouvement des tentes en 2011, la classe moyenne qui s'était révoltée contre l'explosion des loyers. Ils n'ont pas fait la jonction avec la question centrale de cet État qui est la question palestinienne et qui est la question que cet État s'est bâti sur un crime fondateur qui était l'expulsion des Palestiniens. Et le résultat, c'est que ça n'a rien donné. Ça a propulsé quelques années après Yair Lapid au pouvoir. Yair Lapid qui avait promis de s'occuper des classes moyennes, de ne pas s'allier aux religieux, qui s'est allié aux religieux, qui a bombardé Gaza et qui a nommé d'authentiques fascistes comme Ayelet Shaked ou Avigdor Lieberman comme ministre, ou Naftali Bennett. Donc voilà, ce mouvement-là des militaires israéliens, s'ils n'analysent pas ce qu'est l'armée israélienne, on dit souvent en Israël que c'est une armée dotée d'un État et pas un État doté d'une armée, s'ils n'analysent pas le monceau de crimes que cette armée israélienne a commis et a fait commettre aux conscrits de 18 ans, comme à Gaza en 2008, s'ils n'analysent pas le rôle épouvantable que les services secrets ont joué dans l'existence de l'État d'Israël, ce mouvement n'a pas d'avenir. Il n'a d'avenir que s'il reconnaît qu'il y a une question centrale et qu'il n'y aura pas de démocratie en Israël si elle n'inclut pas l'ensemble de la population.
Alors, dernier sujet, Pierre, il te reste à peu près 4 minutes, 5 minutes maximum, sur ce qui se passe aux États-Unis et le positionnement des Américains juifs, de la communauté américaine juive, et tout ce qui se passe de la même manière en France. Tu as, pour nous dire tout ça, 4-5 minutes maximum.
Donc, d'abord savoir que ce n'est pas du tout une demande des juifs états-uniens, le soutien inconditionnel que les États-Unis, tout gouvernement confondu, soutien politique, militaire et diplomatique, apporte à Israël. Il y a majoritairement les juifs états-uniens qui représentent 40% des juifs du monde entier, voudraient la paix avec différentes formes. Il y a nos amis du GVP, Jewish Voice for Peace, qui ont quand même 15 000 membres, 500 000 amis sur la page Facebook, qui sont antisionistes, qui sont pour le boycott. Ils ne sont pas majoritaires chez les juifs états-uniens, mais la majorité, en tout cas, veut une paix et est contre la colonisation. Donc, il y a même le BDS états-unien, 40 à 50% des membres du BDS états-unien sont des juifs. Et on a fait des sondages, 40% des jeunes juifs états-uniens pensent qu'Israël est un état d'apartheid. Donc, il y a cette situation qui pourrait être intéressante. Malheureusement, le gouvernement des États-Unis préfère s'appuyer sur les évangélistes et sur les PAC qui représentent une minorité des juifs états-uniens. Il y a quand même un véritable danger à terme pour l'apartheid israélien, c'est que ce divorce il va aller croissant et il aura, à mon avis, tôt ou tard, des conséquences politiques. Il n'est pas certain que les intérêts des États-Unis coïncideront éternellement avec celles des dirigeants sionistes israéliens. En France, c'est un peu tragique, c'est-à-dire qu'il y a, en France et dans l'Union européenne, il y a véritablement des institutions qui parlent au nom des Juifs et qui ne sont même pas les représentants des Juifs français, qui sont carrément les représentants de l'aile droite du Likoud, quoi, à l'instar de Meir Habib qui vient de se faire réélire chez les Français d'Israël avec un score éloquent. Donc, on a eu autrefois en France des intellectuels juifs qui étaient très intéressants et très et formidables. Je pense à Pierre Vidal-Naquet, Stéphane Hessel, Laurent Schwartz et tout. Et aujourd'hui, on a à la tête du judaïsme français des pitres, des fascistes. Quand on a William Gilles Goldnadel qui dit « Oui, il y a des colonies de peuplement, pas en Judée-Samarie où les Juifs sont chez eux, mais dans le 9-3 », voilà, on a des pitres racistes, on a des clowns comme BHL, on a des racistes comme Alain Finkielkraut qui dit « L'équipe de France n'est même pas black-blanc-beurre, elle est black-beurre et tout le monde se moque de nous ». Voilà, il y a... Alors, qu'est-ce qui explique ce glissement à droite ou ce glissement à l'extrême droite? Il y a certainement beaucoup de facteurs, peut-être pour les Juifs originaires du Maghreb, une espèce de revanche coloniale, mais il y a véritablement un travail à faire. Nous, à l'UJFP, on essaie de le faire, en particulier contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme, en expliquant que les dirigeants israéliens sont infiniment plus proches idéologiquement et par leurs actes de ceux qui ont commis le génocide que de ceux qui l'ont subi, dont ma famille fait partie.
Eh bien, écoute, merci Pierre. Nous te retrouverons avec plaisir le 28. Je pense que tu seras au hangar pour le film de Marie Géniès, situé à Marseille, pour intervenir ensuite dans le débat.
Le 28, je suis là.
Voilà. Et pour d'autres actions. Et merci beaucoup pour cette intervention. On refait une petite pause musicale avant de faire un rappel des prochaines actions et de terminer l'émission dans 3 minutes. Voilà. Merci. Merci Pierre et à bientôt.
À bientôt.
Era el crepúsculo de la iguana.
C'était il canto generale de Pablo Neruda, dirigé par Mikis Theodorakis. Et cette lutte contre le fascisme, elle est en Palestine, elle est partout dans le monde, elle est aussi pour nous en France. Alors, pour terminer, un rappel de l'actualité dans les jours qui viennent, eh bien, le 28 avril à 19h au Hangar, 106 bis boulevard Françoise Duparc, la projection du film « Une mémoire contre l'oubli » de Marie Géniès, suivi d'un débat avec Pierre Stamboul, que vous venez d'entendre, et puis là, avec la réalisatrice Marie Géniès, qui nous parlera de son film et de ses projets. Le 1er mai, tous ensemble dans la manifestation, avec drapeau, avec t-shirt, avec tout ce que vous voulez pour faire du bruit, des posters aussi, pour porter la Palestine dans la manifestation. Et puis le 13 mai, la commémoration des 75 ans du nettoyage ethnique de la Palestine. 75 ans, ça suffit. Et pour rappeler aussi à nos autorités que ce que nous voulons, c'est le jumelage entre Marseille et Gaza. Le 13 mai au soir, à Martigues, la conférence de Michel Benisri, j'ai oublié son prénom. Moi, français, juif, arabe, comment j'ai démissionné du sionisme. Et en fait, le 17 mai, une conférence avec des personnalités venues de la Palestine occupée, d'Espagne, de Belgique, qui viendront bien témoigner de toute la différence entre sionisme et judaïsme, avec des Neturei Karta, avec le réseau juif antisioniste et des colonizers. Voilà, Radio Galère 88.4. Une bonne semaine à tout le monde. C'était Une heure en Palestine. À bientôt. Au revoir. Shut up.